17. Ce premier interrogatoire crucial, seulement quelques heures après le crime. Café et cookies, pendant qu'on identifiait les corps mutilés. Quelque part, des familles pleuraient en se griffant le visage. Mrs. Trelawney se dirigeant vers le hall d'entrée de l'appartement, où son sac à main était posé sur une table d'appoint. Revenant avec, fouillant à l'intérieur, fronçant les sourcils, fouillant toujours, commençant à s'inquiéter, puis souriant. « La voilà !» dit-elle en leur tendant la clé. Les inspecteurs regardaient la petite clé, Hodges la trouvant bien ordinaire pour aller avec une voiture aussi luxueuse. En gros, c'était un bout de plastique noir bombé à l'extrémité. Le renflement était flanqué du logo Mercedes d'un côté et de trois boutons de l'autre. Un cadenas fermé, un cadenas ouvert et un bouton « Urgence ». Probablement que si quelqu'un essayait de vous agresser pendant que vous étiez en train de déverrouiller votre véhicule, il vous suffisait d'appuyer sur ce bouton pour que l'alarme se mette à hurler. « Je comprends pourquoi vous n'arriviez pas à la trouver », fit remarquer Pete de son ton le plus désinvolte. « La plupart des gens ont des porte-clés. Ma femme, par exemple, a une grosse pâquerette en plastique. » Il sourit tendrement, comme si Maureen était toujours sa femme, et que cette gravure de mode, toujours impeccablement élégante, aurait eu l'inconvenance de sortir de son sac une marguerite en plastique.
« Comme c'est mignon, » dit Mrs. Trelawney. « Quand pourrais-je récupérer ma voiture ?»«
Ça ne dépend pas de nous, madame, » répondit Hodges. Elle lâcha un soupir et tira sur son encolure bateau. Première d'une bonne dizaine de fois où il la verrait faire ce geste.
« Je vais devoir la vendre, bien entendu. Je ne pourrai jamais plus la conduire après ce qui s'est passé. C'est bouleversant de penser que ma voiture... »
Maintenant qu'elle avait son sac sous la main, elle fouilla à nouveau et en sortit un paquet de Kleenex pastel. Elle en sortit un et se tapota les yeux.
« Très bouleversant. »
« Pourriez-vous tout nous raconter à nouveau depuis le début, s'il vous plaît ?» demanda Pete. Elle leva les yeux au ciel, des yeux cerclés de rouge et injectés de sang.
« Est-ce vraiment nécessaire ? Je suis exténuée. J'étais debout presque toute la nuit pour m'occuper de ma mère. Elle ne s'est pas endormie avant 4 heures du matin. Elle souffre tellement. J'aimerais pouvoir faire une sieste avant que Mrs. Green n'arrive. C'est l'infirmière. »
Hodges pensa. « On s'est servi de ta voiture pour tuer 8 personnes, peut-être plus, et toi, tu veux faire une sieste ?» Plus tard, il serait incapable de dire si c'était à cet instant précis qu'il avait commencé à la détester. Mais c'était fort probable. Quand certaines personnes sont en détresse, on a envie de les prendre dans nos bras et de leur tapoter le dos en disant « Là, là !» Mais il y en a d'autres à qui on a juste envie de foutre une bonne baffe dans la gueule en leur disant de se ressaisir et d'être un homme, bordel. Ou une femme, dans le cas de Mrs. T.
« On va être le plus rapide possible, » promit Pete.
Il ne lui dit pas que cet interrogatoire serait le premier d'une longue série. Quand ils en auraient fini avec elle, elle s'entendrait raconter son histoire dans son sommeil.
« Bon, très bien. Je suis arrivé ici, chez ma mère, peu après 19 heures jeudi soir. »
Elle lui rendait visite au moins 4 fois par semaine, leur dit-elle, mais le jeudi était le jour où elle restait dormir. Elle s'arrêtait toujours chez Bai, un très bon restaurant végétarien au centre commercial de Birch Hill, où elle commandait leur dîner, qu'elle réchauffait ensuite au four.
Bien que mère mange très peu maintenant, bien sûr, à cause de la douleur.
Elle leur expliqua qu'elle partait toujours de chez elle pour arriver après 19 heures, parce que c'était l'heure où commençait le stationnement gratuit pour la nuit et où la plupart des places étaient libres.
« Je ne fais jamais de créneau. Je n'y arrive tout simplement pas. »
« Et le parking en bas de la rue ?» demanda Hodges. Elle le regarda comme s'il était fou.
« C'est $16 la nuit. Dans la rue, les places sont gratuites. »
Pete avait toujours la clé dans les mains, même s'il n'avait pas encore annoncé à Mrs. Trelawney qu'il devrait la garder.
« Vous vous êtes arrêté à Birch Hill et avez commandé un repas à emporter chez... »
Il consulta son carnet. « Bye. »
« Non, j'ai téléphoné pour commander. De chez moi, à Lilac Drive. » Ils sont toujours heureux de m'entendre. Je suis une cliente de longue date et très appréciée. Hier soir, C'était Coucou Sabzi pour mère. C'est une omelette aux herbes avec des épinards et de la coriandre, et Gaïmet pour moi. Le Gaïmet est un délicieux sauté de petits pois, pommes de terre et champignons, très léger pour la digestion. Elle tire sur son encolure bateau. J'ai de terribles remontées gastriques depuis l'adolescence. On apprend à vivre avec.
Je présume que votre commande commence à Hodges.
Et du cholet zarde en dessert,
ajouta-t-elle.
C'est un riz au lait à la cannelle et au safran.
Elle leur sourit fugitivement de son étrange sourire soucieux. Tout comme sa manie de tirer sur l'encolure de sa robe, ce sourire était une marque de fabrique trilonnée dont il deviendrait rapidement familier.
C'est le safran qui fait tout. Même mère mange toujours tout son cholet zarde.
Oui, ça m'a l'air délicieux, dit Hodges. Et votre commande était-elle prête quand vous êtes arrivé?
Oui.
Dans une boîte?
Oh non, trois.
Dans un sachet alors?
Non, seulement les boîtes.
Ça n'a pas dû être évident de sortir de la voiture avec tout ça, dit Pete. Trois boîtes, votre sac et la clé, ajouta Hodges. N'oublie pas la clé, Pete. Et vous deviez être pressé d'arriver en haut. C'est pas marrant de manger froid.
Je vois très bien où vous voulez en venir, dit Mrs. Trelawney. Et je peux vous assurer,
courte pause,
messieurs, que vous faites entièrement fausse route. J'ai mis la clé dans mon sac tout de suite après avoir coupé le moteur. C'est la première chose que je fais à chaque fois. Quant aux boîtes, elles étaient empilées et ficelées.
Elle écarta les mains d'environ 30 centimètres pour leur montrer.
Ce qui les rend très faciles à transporter. Et j'avais mon sac autour du bras, comme ceci.
Elle plia le bras, y suspendit son sac et défila dans le grand salon, une pile de boîtes invisibles de chez Bay entre les mains.
Vous voyez ?
Oui, madame, répondit Hodges.
Il pensait voir autre chose aussi.
Quant à me dépêcher, non. C'est inutile, puisque les plats doivent être réchauffés de toute manière.
Elle fit une pause.
Pas le cholet zarde, bien entendu. Inutile de réchauffer du riz au lait.
Elle lâcha un petit rire.
Pas vraiment un rire, pensa Hodges. Plutôt un gloussement. Vu que son époux était mort, le chaud lézard devait lui donner des idées. Une nouvelle couche d'antipathie s'ajouta à la précédente, presque assez fine pour rester invisible, mais pas tout à fait. Non, pas tout à fait.
Voyons ce que vous avez fait une fois que vous êtes arrivé ici, dans les Cave New, dit Hodges, peu après 19h.
Oui, 19h05, peut-être un peu plus.
Vous vous êtes garé, quoi, trois ou quatre numéros plus bas?
Quatre, tout au plus. J'ai juste besoin de deux places de parking. Comme ça, je n'ai pas à manœuvrer pour me garer. Je déteste reculer, je braque toujours du mauvais côté.
Oui, madame, ma femme a exactement le même problème. Vous avez coupé le contact, vous avez retiré la clé et l'avez mise dans votre sac à main, vous avez accroché votre sac à votre bras et récupéré les boîtes avec vos repas.
La pile de boîtes, solidement ficelée entre elles.
La pile, oui. Et ensuite ?
Elle le regarda comme si, de tous les crétins dans un monde de crétins, il était le roi.
Et ensuite, je suis allée chez ma mère. C'est Mrs. Harris, la femme de ménage, donc, qui m'a ouvert. Le jeudi, elle s'en va dès que j'arrive. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 19e étage, où vous êtes actuellement en train de me questionner au lieu de me dire quand je pourrais récupérer ma voiture volée.
Hodges prit mentalement note de penser à demander à la femme de ménage si elle avait vu la Mercedes de Mrs. T en partant. Pete demanda.
« À quel moment avez-vous ressorti la clé de votre sac, Madame Trelawney ?»«
Ressorti. Pourquoi l'aurais-je »
Pete agita la clé, pièce à conviction numéro un.
« Pour verrouiller la voiture en partant. Vous l'avez bien verrouillée, n'est-ce pas ?»
Le doute traversa fugitivement son regard. Ils le remarquèrent tous les deux. Puis l'éclair disparut.
« Bien sûr que oui !»
Hodges soutint son regard qu'elle détourna vers le lac, de l'autre côté de la grande baie panoramique, avant de le fixer de nouveau sur lui.
« Essayez de vous rappeler, Madame Trelawney. Des gens sont morts, et ceci est important. Vous rappelez-vous précisément avoir sorti votre clé de votre sac et avoir appuyé sur le bouton de fermeture automatique et avoir vu les phares clignoter en signe de confirmation. Vous savez,
Bien sûr que je sais. »
Elle se mordilla la lèvre inférieure, s'en rendit compte et arrêta.
« Vous souvenez-vous précisément de tout ça ?»
Pendant un court instant, son visage resta inexpressif. Puis son sourire hautain réapparut dans toute son irritante splendeur.
« Attendez, maintenant que vous me le dites, j'ai mis les clés dans mon sac après avoir récupéré les boîtes et être sorti, et après avoir appuyé sur le bouton pour fermer la voiture.
« Vous en êtes sûr ?» demanda Pete.
« Absolument. »
Elle l'était et le resterait. Tous deux le savaient. Tout comme un honnête citoyen interrogé pour délit de fuite dirait, une fois qu'on l'aurait retrouvé, qu'il était sûr que c'était un chien qui l'avait heurté.
Pete referma son carnet de notes et se leva. Hodges fit de même.
Mrs. Trelawney paraissait plus qu'impatiente de les raccompagner à la porte.
« Une dernière question, » dit Hodges en arrivant près de la sortie.
Elle leva ses sourcils parfaitement épilés.
« Oui ?»«
Où est le double de votre clé ?»«
J'ai bien peur que nous en ayons besoin également. »
Pas de regard vide ni évasif cette fois-ci. Aucune hésitation. Elle dit
« Je n'ai pas de double. Je n'en ai aucun besoin. Je prends grand soin de mes affaires, monsieur l'officier. Cela fait maintenant 5 ans que j'ai Madame Grise. C'est comme ça que je l'appelle. Et la seule clé que j'ai jamais eue est celle qui se trouve actuellement dans la poche de votre collègue. »